L'invité de Radio Pont.
Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous les auditrices, les auditeurs de Radio Pont. Nous sommes dans le studio pour une nouvelle interview et aujourd'hui nous allons parler d'un événement important qui revient chaque année, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et pour parler des événements qui vont avoir lieu à Pont et autour de Pont, dans la région, dans ce cadre-là, nous avons le plaisir d'accueillir le réseau violences conjugales et intrafamiliales de la Haute-Saintonge, aussi des personnes du lycée de Pont, de la région Nouvelle-Aquitaine, et un invité un petit peu exceptionnel, Monsieur Jonathan Roger, un des journalistes Bonjour. De la Haute-Saintonge. Bonjour Jonathan. Qui va, évidemment, s'il le souhaite, pouvoir poser toutes les questions qu'il veut à nos invités. On va commencer par un petit tour de table. Je commence par Monsieur Idriss. Alors, ton nom de famille est toujours aussi compliqué à prononcer.
Ouais.
Donc, je vais te laisser faire.
Donc, Idriss Yassia. Donc, moi, je suis référent jeunesse pour la région Nouvelle-Aquitaine, pour le territoire d'Haute-Saintonge, et plus particulièrement les lycées Émile Combapon et Jean-Hippolyte à Jonzac.
Continuons.
Bonjour.
Bonjour, Yolaine.
Yolaine Duvigneau, je suis assistante sociale sur le service d'accueil et d'orientation de l'établissement public départemental Les Deux Monts et je suis là au titre de la co-animation du violence conjugale intrafamiliale de la Haute-Saintonge.
Bonjour, moi je suis Sandrine Quentin-Hériard, je suis assistante sociale à l'hôpital de Jonzac et j'interviens plus particulièrement sur toute la partie addiction et je suis là en tant que membre du réseau violence conjugale de la Haute-Saintonge.
Et bonjour, Jonathan Roger, journaliste à l'hebdomadaire Haute-Saintonge.
Très connu dans la région. Évidemment, élu par de nombreux Pontois. Donc, le réseau a travaillé depuis au moins l'année dernière. Et depuis, vous allez nous dire depuis combien de temps ce réseau est constitué, de qui il est constitué, quelle structure, parce qu'il y a le centre hospitalier, il y a tout, je vais te laisser, Yolaine, peut-être détailler la construction de ce réseau d'aide aux femmes victimes de violences. Et d'information aussi, en général ?
C'est cela. En fait, le réseau existe depuis 2010. Il est composé de... Déjà, il est co-animé par donc, notre service, le SAO, et la sous-préfecture de Jonzac, depuis le 2010. Et il est composé de professionnels du territoire, donc effectivement, des personnels de l'hôpital de Jonzac, des avocats, des élus, des membres des associations du territoire. La gendarmerie, donc l'objectif de ce réseau est d'améliorer l'accueil et l'accompagnement des victimes de violences sur notre territoire et aussi de mieux se connaître entre nous pour faciliter les orientations des personnes que l'on rencontre. Et donc tous les ans, à ce titre, un groupe de travail se réunit pour participer à la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, qui existe, elle, depuis 1999 et qui a été proclamée le 25 novembre par l'ONU. Voilà, donc on essaye d'intervenir sur l'ensemble du territoire de la Haute-Saintonge. On essaye de changer de ville tous les ans pour toucher le plus de personnes possible. Le but de ces événements est en fait de sensibiliser le grand public aux violences faites aux femmes et aussi de pouvoir faire connaître nos services, donc pour des réponses concrètes sur le territoire en cas de besoin.
L'année dernière, vous êtes dans quel coin de la Haute-Saintonge se sont déroulées les actions ?
L'année dernière, nous étions à Montendre, où on avait invité la compagnie Lune d'Elle pour un spectacle autour des stéréotypes de genre. Voilà, aussi à destination d'établissements scolaires et aussi du grand public. Et cette année, nous sommes à Pont et encore un peu, nous serons présents aussi à Montendre.
Parce qu'il y a les collègues de la Maison Pop aussi qui sont aussi impliqués, évidemment, les centres sociaux en général et la plupart des établissements scolaires. Donc, Idriss, je vais me retourner vers toi. On parle des lycées, des lycéens, des établissements scolaires. Le lycée, d'ailleurs, juste comme ça, une petite question vite fait. C'est un moment, une période de la jeunesse adéquate pour sensibiliser. Il y a un vrai besoin sur ce public-là ?
Oui, bien sûr, il y a un besoin évident, ne serait-ce que déjà pour des questions de prévention, voilà, puisque ce sont des âges où la vie sentimentale commence, voilà, qu'on a des jeunes qui savent pas forcément, qui n'ont pas forcément des marques non plus, ou qui n'ont pas forcément des repères par rapport à ça, ou qui aussi ont parfois aussi des repères qui ne sont pas forcément, sans aller jusque dans des violences, en tout cas dans des choses qui peuvent amener à un moment donné effectivement des violences, ou des représentations qui peuvent amener des violences. Donc je pense que la première des préventions, elle est là, c'est-à-dire effectivement prendre conscience de ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de violence intrafamiliale, conjugale, etc. Et c'est leur faire prendre conscience que c'est pas l'idée, c'est pas qu'on va parler de violence parce que du coup la représentation qu'on peut avoir, c'est se dire oui mais ça ne concerne pas, c'est la vie des adultes, c'est quand on est marié, c'est quand on est en couple, quand on a des enfants, etc. En fait non. Nous en tant que professionnels sur les établissements, on peut constater effectivement que dès cet âge-là, dans les premières relations sentimentales qui se nouent, on peut effectivement constater des comportements qui sont problématiques. Alors, ce n'est pas une majorité, mais ça existe. Mmh. Et nous, l'important, effectivement, s'il y a un travail avec les services de santé de l'établissement, donc avec les infirmières, assistantes sociales, médecins scolaires et les enseignants, évidemment, aussi en arrière-plan de tout ça, il y a un travail de détection, de prévention. Et là, ce qu'on est en train de faire avec cette action-là, c'est effectivement de sensibiliser le plus grand nombre, parce qu'il y a, on va dire, la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'on arrive sur des situations qui sont déjà problématiques, mais là, on est sur de la prévention primaire, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait un travail de sensibilisation, on libère la parole autour de ça, on va aller attaquer effectivement aussi des représentations, on va aller, moi ce que j'ai envie c'est qu'on ait un vrai débat avec les lycéens, avec les jeunes, c'est qu'on aille chercher effectivement au fond de nous-mêmes, hein, parce que même nous aussi en tant qu'adultes on n'est pas donneurs de leçons là-dessus, on est tous concernés par le sujet, mais qu'on aille vraiment au fond des choses et au fond des représentations pour qu'on puisse prendre conscience de ça, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet, parmi tant d'autres, hein, mais c'est un vrai sujet sur lequel on doit être en tension, en tout cas à l'école là-dessus.
Donc avec le lycée de Pont, vous allez accueillir encore une représentation théâtrale, parce que c'est un bon vecteur.
Oui, bien sûr. Alors déjà parce qu'on a un outil, à établissement qui permet de le faire de façon dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on a un amphithéâtre qui a une jauge, qui est de 200 places, donc qui permet quand même de faire des choses avec une scène, avec un plateau technique qui permet d'accueillir. Donc il y avait aussi cet aspect la technique de pouvoir le faire. Quand Yolène est venue nous le proposer, nous on est tout de suite été partants. Et il est important pour nous, je reviens sur une notion importante pour nous à l'établissement, c'est qu'on considère que l'établissement doit être au maximum ouvert sur le territoire. Contrairement un petit peu à l'actualité, je fais un parallèle un peu à l'actualité, on a tendance à vouloir faire des lycées, des écoles, des forteresses fermées.
Vigipirate.
Voilà, Vigipirate, bon contexte attentat qui est nécessaire effectivement avec le contexte sécuritaire. Ça ne doit pas nous freiner néanmoins dans la nécessité que pour les établissements, il doit y avoir, et notamment pour le lycée à Pont, une nécessité d'ouvrir au maximum des actions sur le territoire. Que le lycée soit à la fois un pôle structurant sur le territoire, mais aussi impliqué dans la vie sociale. Voilà. Donc nous, on a cette volonté, en tout cas à l'établissement, d'ouvrir un maximum, de faire rentrer les habitants. Qu'on soit impliqué dans la vie sociale, dans le débat local, participatif, etc. Et donc ça, ce type d'action, il remplit en fait toutes les cases en fait, pour nous, à la fois sur des questions de prévention, sur le sujet de société évidemment sur lequel on doit s'impliquer effectivement, et sur la nécessité effectivement de pouvoir s'impliquer au local. Et le fait que sur ce réseau-là, il y ait un ensemble d'acteurs du territoire de Saint-Onge qui soit impliqué, pour nous c'est vachement important de montrer aussi que le lycée n'est pas une tour d'ivoire, c'est aussi un partenaire comme les autres et que évidemment on accueille toutes les actions qu'on voudra bien nous proposer, que ce soit sur le secteur associatif, institutionnel, etc. Donc ça c'est vraiment oui, parce quelque chose d'important pour nous.
La représentation, on va peut-être en parler déjà, les auditeurs, auditrices, sortez vos agendas, mais déjà, vous pouvez noter que le jeudi 23 novembre à 19h30, donc dans l'auditorium du lycée de Pont, il y aura un spectacle qui s'appelle La Cave, on va en parler un petit peu plus longuement, mais en tout cas, ce spectacle-là est non seulement gratuit, mais en plus ouvert à toute la population pontoise. C'est aussi pour ça qu'on en parle à la radio, parce que dans ce souci-là, effectivement, d'ouvrir les actions, évidemment aux lycéens, parce que c'est là en l'occurrence les premiers concernés par le lieu, mais d'ouvrir aussi aux parents, aux voisins, aux adultes, à tous.
C'est exactement ça. Nous, on souhaite pouvoir accueillir un maximum de publics différents et de faire rencontrer justement les publics. Que peut-être effectivement des personnes qui n'ont peut-être pas de contact spécifique avec le public lycéen puissent aller à la rencontre aussi de lycéens, débattre, voir aussi un peu le lieu de vie aussi, où est-ce qu'ils travaillent, parce que c'est à Pont, le lycée, il est quand même grand, hein, ça fait quand même de la surface, hein, par rapport à la commune.
Il est même gigantesque
hein, par rapport à la taille de la commune, donc c'est un lieu important, mais qui peut-être pour beaucoup de gens reste peut-être un peu secret. Et c'est aussi l'occasion là, de faire venir des publics, même hors pont, hein, puisque l'idée, c'est effectivement qu'on le fasse sur toute la Haute-Saintonge et même plus large. On accueille évidemment avec grand plaisir toutes ces personnes-là à la rencontre de nous tous, voilà, pour qu'on puisse avoir un temps de partage aussi, parce que je précise que c'est pas juste l'idée de venir voir une
pièce de théâtre,
un spectacle et de repartir derrière, c'est qu'on permet aussi, on a organisé à la suite un temps d'échange autour d'un temps convivial à la suite dans la maison des lycéens qui est juste en dessous de la salle de spectacle, avec un buffet, donc les gens auront la possibilité de rester après s'ils le souhaitent, échanger sur le spectacle ou sur d'autres choses aussi avec les personnels du lycée, avec les lycéens, bon pas trop tard parce que le lendemain il y a les cours, hein, qui démarrent, voilà.
Oui,
mais il y aura les internes,
hein,
effectivement, des internes qui seront présents ce soir-là, ou même des élèves qui reviendront le soir là-dessus. Donc,
peut-être les comédiens
avec les comédiens, voilà, avec les personnes, les partenaires qui seront présents, donc le SAO, mais aussi tous les partenaires, on les citera peut-être tout à l'heure, mais on a aussi d'autres partenaires qui viennent, de nouer des échanges, des contacts, voilà, et d'aller à la rencontre.
Yolaine, peut-être tu veux nous en parler un petit peu de ce spectacle qui a été proposé pour le lycée.
Alors cette année, nous avons fait appel à la compagnie du hasard qui propose donc ce spectacle La Cave, qui évoque concrètement les violences conjugales au cours d'une enquête, on va dire ça. C'est un spectacle qui a déjà été proposé sur d'autres secteurs du département et pour lequel nous avons eu un bon retour. Donc cette année, effectivement, on va d'abord parler peut-être du jeudi 23 novembre, donc 19h30, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc ça, c'est le spectacle ouvert au grand public, hein, donc on l'a dit également, pont et au-delà. C'est gratuit, c'est un spectacle gratuit que le réseau est... Et la région Nouvelle-Aquitaine et d'autres partenaires prennent en charge.
Pardon, on va peut-être préciser que c'est à partir de 12 ans, parce
voilà,
que peut-être il y a des aspects quand même...
C'est un
sujet complexe et qui peut être violent pour les enfants qui maîtriseraient pas encore.
C'est ça, tout à fait, c'est à partir de 12 ans. Donc ouvert aussi aux adultes, hein, bien évidemment. Donc un temps de représentation, un temps d'échange, et après nous proposons également un buffet... un apéritif dînatoire, on va dire, pour les spectateurs. Voilà. Donc ça, c'est le jeudi soir, c'est ouvert à tout le monde, et c'est au lycée de Pont, nous l'avons dit. Il y aura d'autres représentations de ce spectacle destinées spécifiquement le vendredi 24 aux collégiens et aux lycéens, mais là, du coup, c'est fermé au grand public. Mmh. Et il y aura d'autres actions qui seront aussi proposées sur Pont, à la médiathèque de Pont, par exemple, qui va proposer des ateliers en lien avec la thématique des violences faites aux femmes. Il y aura également des projections proposées par le cinéma de Pont. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les jours précis, mais vous pourrez vous rendre sur le site.
Il y a des films qui traitent aussi de ce sujet sur différents aspects qui vont intégrer la programmation du cinéma municipal, le Vauban.
Voilà.
Donc, dans toute cette semaine-là, du 21 au 26 novembre.
Voilà. Mmh. Et également, nous allons proposer une exposition à la distillerie de Pont. Alors, sur l'amplitude, entre le mardi 21 et le dimanche 26, au niveau des horaires d'ouverture, prochainement, nous aurons plus d'informations concrètes à apporter. Mais cette exposition, en fait, elle est réalisée au fil des ans par les habitants de la Haute-Saintonge. Il y a eu des ateliers dans les centres de loisirs réalisés par des enfants. Il y a eu des dessins, il y a eu des vidéos réalisées, mais aussi par des adultes de centres sociaux, par exemple. où sont abordées les questions des stéréotypes de genre et puis également des violences conjugales. Donc c'est une exposition co-construite, on va dire, par les habitants du territoire. Et l'idée, c'est que voilà, ce sont les habitants qui parlent aux habitants, avec leurs mots, avec leur point de vue. Et le but de cette exposition, c'est de du coup la proposer sur différentes villes au fil des ans pour qu'elle circule et qu'elle soit promue, en fait, sur le territoire.
Qu'elle s'enrichisse chaque année avec les ateliers qui auront pu être menés tout au long de l'année.
Est-ce qu'il y a une participation d'autres membres du réseau ? Vous disiez au début qu'il y avait notamment des avocats, l'hôpital, la gendarmerie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées aussi avec ces membres-là ?
Alors, le jeudi 23 novembre, par exemple, le soir, donc au niveau de l'échange du débat, seront présents évidemment les membres de la troupe de la Compagnie du Hasard. Également des professionnels du réseau, effectivement. Nous, au niveau du SAO, il y aura également Sandrine, qui représentera l'hôpital de Jonzac. Il y aura une référente également de Tremplin 17. Donc, pour échanger avec le public, pour aussi proposer répondre aux questions concrètes, s'il y avait des services disponibles sur le territoire.
J'avais une question indépendamment du programme, mais sur le fonctionnement du réseau. La Charente-Maritime est le premier département de France à avoir généralisé les CLAP, les cellules de lutte contre les atteintes aux personnes. Il y en a une notamment à Jonzac. Est-ce que ça a aussi bien pris et aussi bien marché en Charente-Maritime parce qu'il y avait ce réseau depuis 2010 et ce travail en collaboration ?
Je ne sais pas si c'est l'unique raison. Il y a aussi un autre paramètre plus
politique,
grave. J'ai envie de dire, c'est qu'au niveau des violences intrafamiliales sur notre territoire, elles sont élevées. Donc, il y avait un réel besoin, en fait, d'accueillir différemment les personnes concernées, les victimes de violences intrafamiliales.
D'accord.
D'ailleurs, peut-être, c'est important de rappeler localement ce que vous pouvez constater au niveau justement des hôpitaux, au niveau de tout le réseau, de cette qu'est-ce que ça représente en fait le nombre d'atteintes ou aux personnes ou et particulièrement aux femmes et dans le cadre de violences conjugales ou intrafamiliales. Je ne sais pas, ça représente un événement ou un drame chaque jour. Tous les trois jours
C'est assez difficile de donner des chiffres parce qu'en fait, on a des chiffres internes à chaque service et on n'a pas de données générales du territoire. Par exemple, moi, je peux vous dire combien on reçoit de personnes confrontées aux violences chaque année, mais ça ne va pas être représentatif parce que certains vont s'adresser à notre service, certains vont s'adresser uniquement à la gendarmerie, certains vont s'adresser au service social du département et c'est pas forcément les mêmes personnes ou parfois on a des personnes en commun mais on sait pas, on connaît pas leur nom, donc c'est difficile d'avoir un chiffre vraiment représentatif de ce qui se passe sur le territoire.
Et puis il y a peut-être aussi une question de curseur de violence, je sais pas, est-ce que ça rentre sont des attaques complètement misogynes ou des choses comme ça, mais qui restent du champ du verbal aux atteintes physiques ou à des choses qui durent dans le temps. Il y a une gradation, vous établissez une gradation dans les...
Nous, par rapport à notre service, on accueille les personnes victimes de violences essentiellement conjugales. Tout type de violence. On sait qu'au niveau des violences conjugales, il y a des violences verbales et psychologiques. Des fois, il y a ça, il n'y a pas de violence physique, par exemple. Il y en a qui cumulent tous les types de violences, malheureusement, des violences sexuelles, physiques, psychologiques, économiques. On reçoit toutes les personnes. Il n'y a pas... c'est toutes les personnes qui sont victimes de violences expriment une grande souffrance. Et quand elles font appel à notre service, essentiellement... notre service, peut-être je vais repréciser nos missions, d'ailleurs.
Oui, sur l'accueil et l'orientation.
Voilà, on les accueille de la même manière. Donc, Notre service a deux missions autour des violences. La première, c'est de l'hébergement d'urgence, donc pour des mises à l'abri. Donc sur le secteur de la Haute-Saintonge, on accueille les personnes victimes et leurs enfants quand besoin. On travaille également avec Tremplin 17 qui propose des hébergements post-urgence, on va dire. Et aussi, on a une mission dans le cadre de l'accueil de proximité, d'aller vers les victimes qui nous sollicitent ou les partenaires qui nous sollicitent pour elles, d'accompagnement. Donc les personnes peuvent être toujours au domicile et puis avoir besoin de préparer un départ du domicile conjugal ou ont besoin d'un accompagnement pour des démarches pour aller voir l'avocat ou pour déposer plainte. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire. Donc je me déplace en fait sans hébergement. Je les rencontre où elles préfèrent, en général dans une association ou un partenaire qui nous met à disposition un bureau. On se voit et voilà, je les accompagne. Ça peut être aussi après l'hébergement d'urgence, sur un temps relais, en fait. Voilà, ce sont les deux axes et voilà, qui, pour tout type de violence.
Et que ce n'est pas évident, justement, à quantifier et oui, à mesurer sur un territoire. Est-ce que la Charente-Maritime est plus violente, moins violente que le reste de que les grandes villes, je ne sais pas, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux?
En tout cas, moi, je ne pourrais pas vous dire. Ouais.
Et est-ce qu'il y a un vrai facteur libération de la parole? Parce qu'au final, assez souvent, quand on a l'impression que les violences augmentent, c'est aussi juste parce que le nombre de signalements et de personnes qui font le pas de déposer plainte ou en tout cas de se signaler augmente aussi. Est-ce que vous avez l'impression, entre 2010 et aujourd'hui, que la parole s'est libérée et que les gens, peut-être plus facilement, vont oser dire qu'elles sont victimes et se tourner vers vous?
Alors, il me semble que aujourd'hui, depuis 2-3 ans peut-être, les personnes en tout cas qui font appel à notre service, hein, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est concerné par les violences, ont déjà fait une démarche auprès de la gendarmerie. Ça, c'est plus fréquent. Alors qu'il y a 5 ans, par exemple, aller déposer plainte, c'était très compliqué et à moins d'être très éloigné, en fait, les victimes avaient peur de déposer plainte. Aujourd'hui, les personnes, pour notre service, plus fréquemment, ont déjà, en fait, amorcé une démarche à la gendarmerie.
D'accord. Des démarches de main courante, de signalement,
voilà,
d'événements.
De plainte, voilà, où c'est la gendarmerie qui nous oriente. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas si la libération de la parole augmente les chiffres par rapport à la réalité. On ne peut pas trop savoir. C'est peut-être plus, ça paraît plus simple, mais pour certains, c'est toujours pas le cas, parce qu'il y a vraiment une peur, en fait, des représailles en parlant. Donc,
on peut peut-être néanmoins se dire que plus le nombre de portes sont ouvertes, plus ça peut être, plus les chacun peut trouver la porte qui va être la plus simple ou la plus accessible pour elle, pour justement signaler et être accompagné, pris en charge ou au moins soutenu.
C'est aussi
quoi.
L'idée du réseau, en fait, c'est ça, quand ça a été créé, c'était aussi avant tout pour nous connaître, nous, tous les gens. Moi, j'interviens dans un cadre bien plus spécifique, j'ai envie de dire, où nous, on peut être amenés à, pour le coup, accueillir des auteurs de violences, particulièrement dans le cadre du XAPA, qui est un centre de consultation ambulatoire pour les personnes qui ont des problèmes d'addiction, où là, effectivement, on accueille des gens qui sont en obligation de soins parce que des violences ont pu être commises contre leur conjointe sous l'emprise de l'alcool. Donc, c'est une entrée un peu, pas biaisée, mais un peu différente. Différente en tout cas que d'accueillir, j'ai envie de dire, en gendarmerie. Pour autant, l'intérêt du réseau, c'est justement ça, c'est que, quelles que soient nos missions, quelle que soit notre place professionnelle, c'est à un moment donné de pouvoir orienter au mieux, que ce soit pour le coup les victimes, mais aussi les auteurs qui parfois sont aussi dans des difficultés et qui parfois ont pu aussi être victimes de violences à une époque, en tout cas une période dans leur vie.
Je voulais préciser tout de même, effectivement, là on parle de la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. On reçoit, enfin notre service en tout cas, reçoit, accueille et héberge également des hommes victimes de violences. Voilà, c'est pas la majorité. Ça peut être une situation ou deux maximum par an, mais en tout cas, c'est pas fermé en fonction du genre. Voilà.
apporter une petite touche de sourire dans ce sujet-là. Je me faisais une réflexion l'autre jour en me disant, tiens, je réfléchissais au sujet et je me disais, à l'heure de l'égalité homme-femme qui est censée être acquise par tous, justement, est-ce que le fait d'avoir une journée spécifique pour les violences faites aux femmes n'est pas un espèce de reliquat de quelque chose d'inégal, finalement? Vous comprenez ma question?
J'ai compris votre question. Alors, si malheureusement, là, pour le coup, les chiffres parlent. C'est-à-dire qu'il y a des violences à l'encontre des hommes. Mais au niveau des chiffres, la plus grosse majorité, et là, pour le coup, c'est national, des chiffres que l'on a disent que le plus grand nombre de victimes sont des femmes. Donc je pense que la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes n'est pas désuète, pas encore. Et puis c'est aussi à l'échelle mondiale, parce que là on parle des violences conjugales, mais en fait cette journée parle aussi du droit des femmes, des mariages forcés, des mutilations sexuelles féminines. De la prostitution, c'est aussi un domaine plus large que ce dont on parle là plus précisément aujourd'hui sur le territoire.
Un mot par rapport à...
Oui, bien sûr. L'idée, je crois que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est de faire comprendre conscience. Mais je suis assez optimiste par rapport à la génération de lycéens qu'on a, qui sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus empathiques. Peut-être que les générations, il y a 15 ans ou 20 ans, ou même moi quand j'ai démarré en lycée, de ce que je pouvais observer, je crois qu'on a des générations qui sont beaucoup plus sensibles à ça, mais il y reste encore néanmoins, de toute façon, il faut toujours mettre le métier à l'ouvrage, de toute façon, sur ces questions-là, de se dire qu'effectivement, les violences faites aux femmes ne se limitent pas aux violences physiques, en fait. Et de faire prendre conscience, effectivement, à tout à chacun, puis donc, pour le coup, aux lycéens, effectivement, que ça démarre par peut-être aussi des réflexions, des propos, et on peut aussi être amené à parfois être aussi confronté à des milieux, notamment je pense aux lycéens qui sont professionnels, sur les sections professionnelles, aussi des milieux professionnels où il y a encore beaucoup de misogynie, qui sont faites sous le ton de l'humour ou de la blague, etc. Voilà,
mais je pense qu'ils sont quand même faits.
Mais qui sont quand même faits, qui sont quand même là. Et que cette ambiance-là concourt à un moment donné, effectivement, à des violences qui sont là beaucoup plus caractérisées. Donc, dans le cadre de relations, par exemple, ça peut être le contrôle du portable de l'autre. Voilà, c'est ce qu'on peut constater aussi chez certains jeunes. Le contrôle des faits et gestes, le fait de séparer l'autre de ses amis, etc. Et donc l'idée, et c'est ce qu'on fait un petit peu au long cours avec les services infirmiers sur le lycée, c'est ce qu'on appelle l'éducation de la vie sentimentale. Et ce sont ces petits, je dirais pas de signaux faibles, parce que c'est pas des signaux faibles, ce sont des choses qui sont réelles, qui sont matérialisées, mais de faire prendre conscience qu'on parle pas de violence faite aux femmes à partir du moment où on lève la main, où il y a des gestes, C'est aussi dans les mots, c'est aussi, on pourra, j'espère, aborder aussi la question de la violence économique, parce que là, l'actualité du moment, on l'a tous vu là, depuis lundi 11h25, les inégalités salariales font que les femmes aujourd'hui travaillent gratuitement depuis lundi 11h25, jusqu'au 31 décembre, donc c'est à souligner, et ça je pense qu'on essaiera de le souligner aussi peut-être dans les débats qu'on aura avec les jeunes, que la violence socio-économique aussi, c'est aussi une des premières violences aussi qui concourent derrière aussi à une perte d'autonomie pour les femmes par rapport à une inégalité, etc. Donc ce sont toutes ces questions-là. En fait, ce n'est pas tellement la question des violences en tant que telles, c'est aussi derrière tout ce que notre société aussi comporte qui permet effectivement... Et là, c'est là où je suis plutôt confiant, c'est que les jeunes ont conscience de plus en plus de ça. Ils en sont... ils en savent détecter, on va dire, ces mécanismes. Et j'espère, même si, comme je l'ai redit une fois, il faudra toujours revenir faire de la prévention là-dessus, je pense qu'on est une génération qui est globalement plus consciente de la société que dans laquelle vivent et qui savent se positionner par rapport à ça.
Est-ce qu'il y a dans la prévention au niveau des lycées contre les violences faites aux femmes et contre les violences intrafamiliales en général, est-ce qu'il y a des passerelles aussi qui sont faites avec, par exemple, la lutte contre le harcèlement ? Parce qu'au final, il y a des enjeux qui sont communs dans le respect de la volonté de l'autre, le consentement, la bienveillance.
Tout à fait. tout à fait. Alors, de passerelles ou non, en fait, c'est plus des passerelles de fait. C'est-à-dire que bon, l'inconvénient, j'ai envie de dire, de l'éducation nationale et puis des institutions, c'est que beaucoup de choses sont cylindrées. Donc là, on va travailler effectivement sur les violences faites aux femmes. Parallèlement, il y a aussi des gens qui se mobilisent sur la prévention et la lutte contre les discriminations de genre, voilà aussi, qui agitent beaucoup aussi les lycées en ce moment. Le harcèlement est un réel sujet, je ne vais pas revenir sur l'actualité, mais plus qu'un sujet là-dessus, et sur lequel il y a des choses qui sont faites à la fois par l'éducation nationale au plan national, mais aussi par les régions, et spécifiquement aussi par la région Nouvelle-Aquitaine, qui soutient depuis de nombreuses années en fait, ces actions-là. Faut savoir aussi que là, si on peut se permettre aussi de proposer ça aujourd'hui aux habitants, c'est que la région aussi finance ce genre de choses. Donc il y a des choix politiques aussi qui sont faits derrière, qui permettent de mettre clairement de l'argent public pour financer ce type d'action. Et donc que ce soit sur les violences faites aux femmes, sur le harcèlement, sur les questions de genre, sur etc. Il y a plein de sujets sur lesquels en fait on se doit de se mobiliser, ce qui n'est pas forcément évident, voilà, parce qu'il y a des télescopages, parce qu'on nous demande aussi de nous mobiliser sur beaucoup de sujets. Clairement, enfin, il n'y a pas de hiérarchisation à faire entre la lutte qu'on doit faire sur la violence faite aux femmes ou sur le harcèlement, etc. Donc il faut qu'on puisse se mobiliser de tout, mais effectivement, les journées ne font que 24 heures, l'année scolaire que 8 mois, donc c'est parfois un peu compliqué. Et on rentre dans une telle technicité qu'aujourd'hui, ça demande quasiment en fait, un travail à plein temps de travailler sur ces questions-là. Et le frein qu'on rencontre, c'est que lorsqu'on demande sans arrêt aux enseignants de se mobiliser sur ci, sur ça, etc., en fait, on arrive à une surcharge en fait, de travail là-dessus. Alors ça pose question effectivement sur ce qu'on demande aujourd'hui à l'école de faire sur le plan sociétal. Hein, mais je pense que c'est en fonction voilà, des initiatives locales. Je ne crois pas beaucoup aux énormes plans nationaux qui devraient se dérouler de la même manière dans un lycée à Cannes, à Brest, à Dunkerque ou à Bayonne. Je pense que les solutions, elles sont locales. Donc je pense qu'il faut pouvoir le permettre aux gens, effectivement, et aux équipes de réellement se mobiliser là-dessus. Voilà. Donc, j'ai un peu le sur la réponse, mais il faut remettre ça, effectivement, dans le contexte. Donc, de passerelles, pas forcément, mais en fait, bon, clairement, les gens qui travaillent aujourd'hui sur cette action-là, on va les retrouver aussi sur le harcèlement, etc. Donc, il n'y a pas forcément encore de choses globales, coordonnées, etc. Mais il y a des actions sur lesquelles les équipes se mobilisent toute l'année sur des sujets différents, et je peux vous dire que oui, effectivement, ça nous prend du temps, l'énergie, mais on est présent et on le fait. Ouais.
si je peux prolonger ce que tu dis, je pense qu'effectivement, qu'il y a une forme de transversalité des violences et qu'on parle du genre, les luttes LGBT, etc., on contribue aussi à, comment dire, à, d'une certaine manière, montrer toutes ces discriminations-là, tous ces espaces de violence, ces espaces de harcèlement, ces espaces de qui vont du tout de la toute petite réflexion mesquine, plus ou moins drôle, pseudo humoristique, jusqu'à là des faits beaucoup plus graves, et dans plein de domaines, que ce soit conjugal, ou dans la rue, ou dans un établissement scolaire, ou professionnel, parce que évidemment ce champ-là est aussi un lieu de discrimination et de relations parfois difficiles. Mais c'est compliqué, c'est quasi philosophique, on va dire, de lutter contre la violence de la société et contre ses bas instincts.
Alors, exactement, ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est que les lycéens eux-mêmes en fait, nous poussent aussi à faire plus parce qu'eux-mêmes s'en demandent par rapport à ça. Je pense que là aussi, je le répète, hein, ils sont extrêmement conscients des mécanismes sociétaux dans lesquels on est tous pris aujourd'hui. Et ils sont en demande, ils nous disent il faut faire des actions, il faut faire des choses. Alors évidemment, à 17 ans, quand t'es lycéen, t'as pas forcément la structuration, la compétence pour pouvoir mener des actions. Et c'est là où nous, on intervient effectivement pour accompagner ces initiatives-là. Il faut qu'on puisse les aider, effectivement, et y proposer en plus des choses, etc. Mais voilà, clairement, ils sont aussi eux-mêmes acteurs aussi là-dedans. Donc ça, c'est plutôt bon signe de se dire qu'ils sont au moins, en tout cas, en attente, il faut qu'on puisse faire des choses dans ce domaine-là. Ils viennent nous voir pour monter des projets dans ce cadre-là. Il faut qu'on puisse accompagner effectivement ces initiatives parce qu'eux-mêmes se sentent investis et ont envie d'agir dedans.
Les auditeurs, les auditrices, on a déjà une bonne trentaine de minutes de discussion. Est-ce que l'un de nos invités, peut-être toi, Yolaine, tu veux nous rappeler un petit peu justement tout ce qui va se passer dans les environs pour Pont, pour cette semaine et pour cette journée particulière de lutte contre les violences faites aux femmes?
Alors
et puis après, on se dira à bientôt. Et puis revenez, les auditeurs, les auditrices, venez rencontrer non seulement des professionnels, mais aussi des lycéens, d'autres habitants autour de moments conviviaux. Ou le jeudi 23, ou même à la distillerie autour de photographies, de dessins.
Alors pour le jeudi 23 novembre, 19h30, pour que vous puissiez venir au spectacle de la cave de la compagnie du hasard, vous pouvez, il y a deux moyens, trouver une affiche et scanner le QR code, ou bien téléphoner au centre socioculturel de Pont au 05 46 94 08 17. Pour la distillerie, vous trouverez les horaires, et ainsi que le cinéma, les horaires et la programmation sur les sites internet respectifs, ainsi que pour la médiathèque de Pont. Alors, il y a aussi une autre action qui est organisée là à Montendre par l'association Rock en Tête, qui font venir des groupes féminins, donc de rock. Alors, je ne vais pas pouvoir vous dire tous les styles de rock, mais a priori, c'est fort.
Plutôt voilà. Punchy.
Et donc, ça a lieu le samedi 25 novembre à partir de 19h. Donc, pareil, vous pouvez trouver les renseignements sur la page Facebook de l'association Rock en Tête 17, ou bien sur les réseaux locaux d'événements sur le territoire.
Merci beaucoup. Ouais. Jonathan, un petit mot de...
Moi, j'aurais encore plein de questions à poser, mais on n'a pas un créneau de 2-3 heures, donc je les poserai à l'occasion de cette journée et des nombreuses animations qui sont organisées tout autour de Pont.
Merci beaucoup à toi, en tout cas, d'être venu et de m'avoir accompagné dans ce double questionnement du réseau de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Merci beaucoup à vous.
Merci pour votre invitation.
Merci. Et puis au 23, ou à très bientôt, en tout cas, sur les ondes de Radio Pont.